Il faut bien le dire. Jésus en a agacé plus d'un avec ses paraboles et son insistance pour parler des pauvres, pour s'adresser aux pauvres et pour stigmatiser les bons croyants appliquant la loi. Et même ici, le pharisien, il applique vraiment toute la loi. Il en fait même plus avec 2 jours de jeûne qui n'étaient pas compris dedans. Et il a l'air de les disqualifier. Jésus en a énervé plus d'un, comme le pape aujourd'hui, qui insiste beaucoup, en énerve beaucoup. Et pourtant, Jésus nous apprend aujourd'hui une chose essentielle. Ce qui est l'attitude juste de se tenir devant Dieu. C'est-à-dire, comment prier ? Parce que la prière, c'est se tenir devant Dieu. Et comment je peux me tenir devant Dieu ? Alors, dans la première lecture, dans l'Évangile, on insiste beaucoup justement sur cette attitude d'humilité. Alors, qui s'élève, ça va pas, qui s'abaisse, ça va. Et puis, on a du mal à comprendre parce que c'est des paroles qu'on a entendues depuis très longtemps. C'est aussi parce que on pense que Jésus parle d'une manière extérieure, parce qu'on attend toujours que Jésus rétablisse les choses, fasse une société juste, etc., qu'on le fasse roi, et puis qu'il ait les bons principes, et puis qu'il nous sauve dans notre train-train quotidien. Mais Jésus a un autre plan. Et ce qu'il parle, s'il parle des pauvres, c'est pour nous apprendre la vraie disposition pour rentrer dans une relation vraie et vivante avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec le pharisien ? Le pharisien, il est quand même un type super. Il fait toute la loi. En plus, il prie une prière d'action de grâce. Je te rends grâce pour tout ce que j'ai fait. Tout ce qu'il a fait pour être acceptable aux yeux de Dieu. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne parle pas tant à Dieu qu'il fait de l'auto-contemplation, qu'il fait de l'auto-justification dans un sens, parce qu'il faut bien qu'il soit acceptable et qu'il puisse se présenter devant Dieu. Alors, il a accumulé les mérites, les œuvres. Mais n'oublions pas, tout au long de la Bible, Dieu n'arrête pas de nous dire que le salut, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est un don gratuit de Dieu. Et si on parle de mérite dans l'Église, il s'agit de tout à fait autre chose. C'est pas ce que nous faisons, c'est pas nos mérites qui vont nous donner accès à Dieu. C'est Dieu nous donnant accès à lui, nous allons pouvoir porter du fruit. Laissez cette grâce s'élever et ne nous trompons pas, car nous qui sommes toujours plantés sur une mentalité moralisante, eh bien, nous risquons toujours de déformer en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait, eh bien, ce pharisien finalement, et qu'est-ce qu'il fait ? En faisant ça, il se compare. » Je me souviens, mon maître des novices, toujours le premier point dans la vie spirituelle, c'est ne pas se comparer. Parce que quand on se compare, on compare par rapport à quoi ? On compare par rapport à soi, ou par rapport à l'idéal, ou par rapport à nos idées. Mais finalement, on est toujours en place de juge. Et ce qui arrive tout de suite, c'est d'exclure les autres. Nous, on est les gens qui se tiennent quand même. On est les gens bien. On est... Voilà. Hein, et on arrive à critiquer, juger, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Parce que les autres, c'est des voleurs, c'est des lâches, c'est des menteurs, etc. Comme lui, il est... Parce que le pharisien et le publicain, là, ils sont dans la parabole, ils sont tous les deux de bonnes conditions. Hein, c'est pas la différence entre un riche et un pauvre. Ils sont tous les deux de bonnes conditions, mais il y en a un qui... Le publicain, il est un collecteur d'impôts, alors il est employé par l'occupant romain, donc c'est un collabo, et puis le système des impôts à l'époque, c'est l'ouverture à tous les abus, parce que c'est pas un barème fixé, mais c'est les Romains qui donnent la somme qu'il faut, et le gars doit se débrouiller pour ramasser ce qu'il peut, et ce qu'il peut pour donner aux Romains, et aussi pour vivre lui-même. Alors la mesure, elle n'est pas très très précise. Et donc c'est des gens qui ont une mauvaise réputation. Mais si je me mets à critiquer, parce que les gens sont ceci, cela, je me mets à exclure, comme dira Saint Jacques, à prendre la place de Dieu, je m'élève. Voilà ce que veut dire Jésus quand il dit à la fin, qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Finalement, il s'appuie sur la bonne estime, mais pour finalement exclure les autres, pour comparer. Finalement, il a mis Dieu, il est satisfait, parce que finalement, sa vie se tient à peu près. Les autres sont toujours critiquables. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on risque de faire souvent dans la prière, il confond la paix du cœur avec l'auto-justification. Il a mis Dieu à son service, finalement. Il a satellisé Dieu à la portée de son orgueil. Le publicain, lui, ne peut pas se comparer. Car la première comparaison de sa vie, les comparaisons qu'on a faites, donnent ce poids, lui donnent cette image pas très bonne. Mais il va découvrir quelque chose, le sens, le vrai sens du péché, qui n'est pas, où Jésus ne va pas, c'est pas pour se confesser, c'est pas inventer des péchés, des choses, etc. Mais c'est juste, il arrive à déceler ce qui est lourdeur dans sa vie. Il reconnaît finalement combien le mensonge a gagné sa vie, combien il s'est installé dans sa vie, combien il a perdu la hâte du royaume, combien il s'est peu aimé. Et finalement, c'est avec cette attitude qu'il rentre. On avait, dans cette réflexion sur la prière dimanche dernier, la parabole aussi de la veuve importune qui va chez le juge. Et elle aussi s'est abaissée, elle s'est abaissée à quémander. Et Jésus l'a pris comme une image de la foi qui s'appuie, de la foi qui, comme le dit la première lecture aujourd'hui, de Ben Sirac, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. Et tant qu'elle n'aura pas atteint son but, il sera inconsolable. Mais sa prière, elle prend un accès de vérité à elle, celle du publicain aussi, parce que finalement, c'est dans les jours de pauvreté, c'est quand on reconnaît nos incapacités, quand on se trouve acculé, que nous sommes peut-être le mieux placés pour vraiment prier. Quand il n'y a plus d'autre recours que la prière, alors vraiment, on prie de tout son cœur. C'est un enseignement d'un grand moine, dont André Louf, qui était abbé du Mont des Cats, qui disait « Tant qu'on se regarde prier, tant qu'on n'a pas atteint notre pauvreté fondamentale, notre cri pour vivre, on n'a pas vraiment commencé à prier. » Et c'est ici, dans cette prière, où Jésus veut nous apprendre à nous tenir pour rentrer. Finalement, c'est l'explication de la béatitude de la pauvreté. C'est l'application de la béatitude de la pauvreté au domaine de la prière, de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas par la multiplication des formules, des cérémonies, des prières, des sacrifices de toutes sortes, même si c'est des très belles prières et des très beaux sacrifices qui nous ouvrent l'accès au Seigneur. C'est d'apprendre à être en vérité, d'apprendre à ne pas avoir en vérité qui inclut aussi notre pauvreté, notre incapacité, notre précarité. Dans la première lecture, on avait ces classes de pauvres, le pauvre, l'opprimé, l'orphelin, la veuve, c'est-à-dire ceux qui sont en précarité, qui n'ont pas d'appui, qui doivent chercher pour se débrouiller. Et Jésus donne en exemple pour que nous puissions apprendre à aimer de tout notre cœur. Non pas dans ce que nous allons sélectionner dans notre cœur, comment nous allons le former, mais chercher de tout notre cœur. Et c'est à partir de ce que nous sommes, de cette reconnaissance, alors que le Seigneur vient. Demandons cette grâce au Seigneur de prendre à nous tenir devant lui, comme le publicain, parce que c'est là qu'est la justice de Dieu, c'est là qu'il peut déverser en abondance son amour, sa miséricorde. Cette miséricorde qui, dans la première lecture, malheureusement, il y a un petit verset sublime qui a été supprimé, mais qui est au milieu de la lecture, quand le Seigneur parle de... Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Le texte hébreu rajoute « Et les larmes de la veuve coulent sur la joue. » Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. C'est cette tendresse de Dieu pour tout ce que nous sommes, à nous d'oser aller avec lui, avec tout ce que nous sommes, non pas en nous auto-justifiant, non pas en nous sécurisant avec des lois, mais en apprenant à nous laisser rejoindre par le Seigneur, nous laisser relever par lui.